Blaise Pascal, Pensée. Chapitre 13. Que la loi était figurative. Pour prouver tout d'un coup les deux testaments, il ne faut que voir si les prophéties de l'un sont accomplies en l'autre. Pour examiner les prophéties, il faut les entendre. Car, si l'on croit qu'elles n'ont qu'un sens, il est sûr que le Messie ne sera point venu. Mais si elles ont deux sens, il est sûr qu'il sera venu en Jésus-Christ. Toute la question est donc de savoir si elles sont deux sens, si elles sont figure ou réalité, c'est-à-dire s'il faut chercher quelque autre chose que ce qui paraît d'abord, ou s'il faut s'arrêter uniquement à ce premier sens qu'elles présentent. Si la loi et les sacrifices sont la vérité, il faut qu'ils plaisent à Dieu et qu'ils ne lui déplaisent point. S'ils sont figure, il faut qu'ils plaisent et déplaisent. Or, dans toute l'Écriture, ils plaisent et déplaisent. Donc, ils sont figure. Il est dit que la loi sera changée, que le sacrifice sera changé, qu'ils seront sans roi, sans prince et sans sacrifice, qu'il sera fait une nouvelle alliance, que la loi sera renouvelée, que les préceptes qu'ils ont reçus ne sont pas bons, que leurs sacrifices sont abominables, que Dieu n'en a point demandé. Il est dit au contraire que la loi durera éternellement, que cette alliance sera éternelle, que le sacrifice sera éternel, que le sceptre ne sortira jamais d'avec eux, puisqu'il n'en doit point sortir que le roi éternel n'arrive. Tous ces passages marquent-ils que ce soit réalité? Non. Marquent-ils aussi que ce soit figure? Non. Mais que c'est réalité ou figure? Mais les premiers excluant la réalité marque que ce n'est que figure. Tous ces passages ensemble ne peuvent être dits de la réalité. Tous peuvent être dits de la figure. Donc, ils ne sont pas dits de la réalité, mais de la figure. Pour savoir si la loi et les sacrifices sont réalité ou figure, il faut voir si les prophètes, en parlant de ces choses, y arrêter leur vue et leur pensée, en sorte qu'ils ne visent que cette ancienne alliance, ou s'ils y voyaient quelque autre chose dont elle fût la peinture. Car dans un portrait, on voit la chose figurée. Il ne faut pour cela qu'examiner ce qu'ils disent. Quand ils disent qu'elle sera éternelle, entendent-ils parler de l'alliance de laquelle ils disent qu'elle sera changée, et de même des sacrifices, etc. Les prophètes ont dit clairement qu'Israël serait toujours aimé de Dieu et que la loi serait éternellement. Et ils ont dit que l'on n'entendrait point leur sens et qu'il était voilé. Le chiffre a deux sens. Quand on surprend une lettre importante où l'on trouve un sens clair, et où il est dit néanmoins que le sens en est voilé et obscurci, qu'il est caché en sorte qu'on verra cette lettre sans la voir et qu'on l'entendra sans l'entendre, que doit-on penser, sinon que c'est un chiffre à double sens, et d'autant plus qu'on y trouve des contrariétés manifestes dans le sens littéral. Combien doit-on donc estimer ceux qui nous découvrent le chiffre et qui nous apprennent à connaître le sens caché, et principalement quand les principes qu'ils en prennent sont tout à fait naturels et clairs? C'est ce qu'a fait Jésus-Christ et les apôtres. Ils ont levé le sceau, ils ont rompu le voile et découvert l'esprit. Ils nous ont appris pour cela que les ennemis de l'homme sont ses passions, que le Rédempteur serait spirituel, qu'il y aurait deux avènements, l'un de misère, pour abaisser l'homme superbe, l'autre de gloire, pour élever l'homme humilié. Que Jésus-Christ sera Dieu et homme. Jésus-Christ n'a fait autre chose qu'apprendre aux hommes qu'ils s'aimaient eux-mêmes et qu'ils étaient esclaves, aveugles, malades, malheureux et pécheurs, qu'il fallait qu'il les délivrât, éclairât, béatifiât et guérît, que cela se ferait en se haïssant soi-même et en le suivant par la misère et la mort de la croix. La lettre tue, tout arrivait en figure. Il fallait que le Christ souffrît. Un Dieu humilié, circoncision du cœur, vrai jeûne, vrai sacrifice, vrai temple, double loi, double table de la loi, double temple, double captivité. Voilà le chiffre qu'il nous a donné. Il nous a appris enfin que toutes ces choses n'étaient que figures, et ce que c'est que vraiment libre, vrai israélite, vraie circoncision, vrai prince du ciel, etc. Dans ces promesses-là, chacun trouve ce qu'il a dans le fond de son cœur, les biens temporels ou les biens spirituels, Dieu ou les créatures, mais avec cette différence que ceux qui y cherchent les créatures les y trouvent, mais avec plusieurs contradictions, avec la défense de les aimer, avec ordre de n'adorer que Dieu et de n'aimer que lui. Au lieu que ceux qui y cherchent Dieu le trouvent, et sans aucune contradiction, et avec commandement, de n'aimer que lui. Les sources des contrariétés de l'Écriture sont un Dieu humilié jusqu'à la mort de la croix, un Messie triomphant de la mort par sa mort, deux natures en Jésus-Christ, deux avènements, deux états de la nature de l'homme. Comme on ne peut bien faire le caractère d'une personne qu'en accordant toutes les contrariétés, et qu'il ne suffit pas de suivre une suite de qualités accordantes sans concilier les contraires, aussi, pour entendre le sens d'un auteur, il faut accorder tous les passages contraires. Ainsi, pour entendre l'Écriture, il faut avoir un sens dans lequel tous les passages contraires s'accordent. Il ne suffit pas d'en avoir un qui convienne à plusieurs passages accordants. Mais il faut en avoir un qui concilie les passages, même contraires. Tout auteur a un sens auquel tous les passages contraires s'accordent, ou il n'a point de sens du tout. On ne peut pas dire cela de l'Écriture ni des prophètes. Ils avaient effectivement trop bon sens. Il faut donc en chercher un qui accorde toutes les contrariétés. Le véritable sens n'est donc pas celui des Juifs, mais en Jésus-Christ, toutes les contradictions sont accordées. Les Juifs ne sauraient accorder la cassation de la royauté et principauté prédite par Osée avec la prophétie de Jacob. Si on prend la loi, les sacrifices et le royaume, pour réalité, on ne peut accorder tous les passages d'un même auteur, ni d'un même livre, ni quelquefois d'un même chapitre, ce qui marque assez quel était le sens de l'auteur. Il n'était point permis de sacrifier hors de Jérusalem, qui était le lieu que le Seigneur avait choisi, ni même de manger ailleurs les décimes. Osée a prédit qu'il serait sans roi, sans prince, sans sacrifice et sans idole. Ce qui est accompli aujourd'hui, ne pouvant faire de sacrifice légitime hors de Jérusalem. Quand la parole de Dieu qui est véritable est fausse littéralement, elle est vraie spirituellement. Cede ad extris meis. Cela est faux littéralement dit. Cela est vrai spirituellement. En ces expressions, il est parlé de Dieu à la manière des hommes, et cela ne signifie autre chose, sinon que l'intention que les hommes ont en faisant asseoir à leur droite, Dieu l'aura aussi. C'est donc une marque de l'intention de Dieu et non de sa manière de l'exécuter. Ainsi, quand il est dit « Dieu a reçu l'odeur de vos parfums et vous donnera en récompense une terre fertile et abondante », c'est-à-dire que la même intention qu'aurait un homme qui agrée en vos parfums vous donnerait en récompense une terre abondante, Dieu l'aura pour vous, parce que vous avez eu pour lui la même intention qu'un homme a pour celui à qui il donne des parfums. L'unique objet de l'Écriture est la charité. Tout ce qui ne va point à l'unique but en est la figure. Car puisqu'il n'y a qu'un but, tout ce qui n'y va point en mon propre est figure. Dieu diversifie ainsi cet unique précepte de charité pour satisfaire notre faiblesse qui recherche la diversité, par cette diversité qui nous mène toujours à notre unique nécessaire. Car une seule chose est nécessaire, et nous aimons la diversité. Et Dieu satisfait à l'un et à l'autre par ces diversités qui mènent à ce seul nécessaire. Les rabbins prennent pour figure les mamelles de l'épouse, et tout ce qui n'exprime pas l'unique but qu'ils ont de bien temporel. Il y en a qui voient bien qu'il n'y a pas d'autre ennemi de l'homme que la concupiscence qui le détourne de Dieu, ni d'autre bien que Dieu, et non pas une terre fertile. Ceux qui croient que le bien de l'homme est en la chair, et le mal en ce qui le détourne des plaisirs des sens, qu'ils s'en saoulent et qu'ils y meurent. Mais ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui n'ont de déplaisir que d'être privés de sa vue, qui n'ont de désir que pour le posséder, et d'ennemis que ceux qui les en détournent, qui s'affligent de se voir environnés et dominés de tels ennemis, qu'ils se consolent. Il y a un libérateur pour eux, il y a un Dieu pour eux. Un Messie a été promis pour délivrer des ennemis, et il en est venu un pour délivrer des iniquités, mais non pas des ennemis. Quand David prédit que le Messie délivrera son peuple de ses ennemis, on peut croire charnellement que ce sera des Égyptiens, et alors je ne saurais montrer que la prophétie soit accomplie. Mais on peut bien croire aussi que ce sera des iniquités, car dans la vérité, les Égyptiens ne sont pas des ennemis, mais les iniquités le sont. Ce mot d'ennemi est donc équivoque. Mais s'il dit à l'homme, comme il fait, qu'il délivrera son peuple de ses péchés, aussi bien qu'Isaïe et les autres, l'équivoque est ôté, et le double sens des ennemis réduit au sens simple d'iniquité. Car s'il avait dans l'esprit les péchés, il les pouvait bien dénoter par ennemis, mais s'il pensait aux ennemis, il ne les pouvait pas désigner par iniquité. Or, Moïse, David et Isaïe usaient des mêmes termes. Qui dira donc qu'ils n'avaient pas même sens, et que le sens de David est manifestement d'iniquité lorsqu'il parlait d'ennemis, ne fut pas le même que celui de Moïse en parlant d'ennemis. Daniel, chapitre 9, prie pour la délivrance du peuple de la captivité de leurs ennemis, mais il pensait au péché. Et pour le montrer, il dit que Gabriel lui vint dire qu'il était exaucé et qu'il n'avait que 70 semaines à attendre, après quoi le peuple serait délivré de l'iniquité, le péché prendrait fin, et le libérateur, le Saint des Saints, amènerait la justice éternelle, non la légale, mais l'éternelle. Dès qu'une fois on a ouvert ce secret, il est impossible de ne pas le voir. Qu'on lise l'Ancien Testament en cette vue, et qu'on voit si les sacrifices étaient vrais, si la parenté d'Abraham était la vraie cause de l'amitié de Dieu, si la terre promise était le véritable lieu du repos. Non. Donc, c'était des figures. qu'on voit de même toutes les cérémonies ordonnées et tous les commandements qui ne sont pas de la charité, on verra que c'en sont les figures. Chapitre 14. Jésus-Christ. La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit. La grandeur des gens d'esprit est invisible aux riches, aux rois, aux conquérants et à tous ces grandes chairs. La grandeur de la sagesse qui vient de Dieu est invisible aux charnels et aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres de différents genres. Les grands génies ont leur empire, leur éclat, leur grandeur, leur victoire, et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles qui n'ont nul rapport avec celles qu'ils cherchent. Ils sont vus des esprits, non des yeux, mais c'est assez. Les saints ont leur empire, leur éclat, leur grandeur, leur victoire, et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles ou spirituelles qui ne sont pas de leur ordre, et qui n'ajoutent ni n'ôtent à la grandeur qu'ils désirent. Ils sont vus de Dieu et des anges, et non des corps ni des esprits curieux. Dieu leur suffit. Archimède, sans aucun éclat de naissance, serait en même vénération. Il n'a pas donné des batailles, mais il a laissé à tout l'univers des inventions admirables. Oh, qu'il est grand et éclatant aux yeux de l'esprit. Jésus-Christ, sans bien et sans aucune production de science au dehors, est dans son ordre de sainteté. Il n'a point donné d'invention, il n'a point régné, mais il a été humble, patient, saint devant Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché. Oh, qu'il est venu en grande pompe, et en une prodigieuse magnificence aux yeux du cœur, et qui voit la sagesse. Il eût été inutile à Archimède de faire le prince dans ses livres de géométrie, quoiqu'il le fût. Il eût été inutile à notre Seigneur Jésus-Christ, pour éclater dans son règne de sainteté, de venir en roi, mais qu'il est bienvenu avec l'éclat de son ordre. Il est ridicule de se scandaliser de la bassesse de Jésus-Christ, comme si cette bassesse était du même ordre que la grandeur qu'il venait faire paraître. Qu'on considère cette grandeur-là dans sa vie, dans sa passion, dans son obscurité, dans sa mort, dans l'élection des siens, dans leur fuite, dans sa secrète résurrection et dans le reste. On la verra si grande qu'on n'aura pas sujet de se scandaliser d'une bassesse qui n'y est pas. Mais il y en a qui ne peuvent admirer que les grandeurs charnelles, comme s'il n'y en avait pas de spirituelles, et d'autres qui n'admirent que les spirituelles, comme s'il n'y en avait pas d'infiniment plus hautes dans la sagesse. Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et les royaumes ne valent pas le moindre des esprits, car il connaît tout cela et soi-même, et le corps, rien. Et tous les corps et tous les esprits, ensemble, et toutes leurs productions, ne valent pas le moindre mouvement de charité, car elle est d'un ordre infiniment plus élevé. De tous les corps ensemble, on ne saurait tirer la moindre pensée. Cela est impossible et d'un autre ordre. Tous les corps et les esprits ensemble ne sauraient produire un mouvement de vraie charité. Cela est impossible et d'un autre ordre, tout surnaturel. Jésus-Christ a été dans une obscurité, selon ce que le monde appelle obscurité, telle que les historiens qui n'écrivent que les choses importantes l'ont à peine aperçu. Quel homme eut jamais plus d'éclat que Jésus-Christ. Le peuple juif tout entier le prédit avant sa venue. Le peuple gentil l'adore après qu'il est venu. Les deux peuples, gentil et juif, le regardent comme leur centre. Et cependant, quel homme jouit jamais moins de tout cet éclat? De 33 ans, il en vit 30, sans paraître. Dans les 3 autres, il passe pour imposteur. Les prêtres et les principaux de sa nation le rejettent. Ses amis et ses proches le méprisent. Enfin, il meurt d'une mort honteuse, trahi par un des siens, renié par l'autre et abandonné de tous. Quelle part a-t-il donc à cet éclat? Jamais homme n'a eu tant d'éclat, jamais homme n'a eu plus d'ignominie. Tout cet éclat n'a servi qu'à nous, pour nous le rendre reconnaissable, et il n'en a rien eu pour lui. Jésus-Christ parle des plus grandes choses si simplement qu'il semble qu'il n'y a pas pensé, et si nettement néanmoins qu'on voit bien ce qu'il en pensait. Cette clarté, jointe à cette naïveté, est admirable. Qui a appris aux évangélistes les qualités d'une âme véritablement héroïque pour la peindre si parfaitement en Jésus-Christ? Pourquoi le font-il faible dans son agonie? Ne savent-ils pas peindre une mort constante? Oui, sans doute, car le même saint Luc peint celle de saint Étienne plus forte que celle de Jésus-Christ. Ils le font donc capable de crainte avant que la nécessité de mourir soit arrivée, et ensuite tout fort. Mais quand ils le font troubler, c'est quand il se trouble lui-même, et quand les hommes le troublent, il est tout fort. L'Évangile ne parle de la virginité de la Vierge que jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, tout par rapport à Jésus-Christ. Les deux testaments regardent Jésus-Christ, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. Les prophètes ont prédit et n'ont pas été prédits. Les saints ensuite sont prédits, mais non prédisants. Jésus-Christ est prédit et prédisant. Jésus-Christ pour tous, Moïse pour un peuple. Les Juifs bénis en Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais toute nation bénit en sa semence. Lumen ad revelationem gentium, non fecit taliter omni nationi, disait David, en parlant de la loi. Mais en parlant de Jésus-Christ, il faut dire fecit taliter omni rationi. Aussi, c'est à Jésus-Christ d'être universel. L'Église même n'offre le sacrifice que pour les fidèles. Jésus-Christ a offert celui de la croix pour tous. Tendons donc les bras à notre libérateur, qui, ayant été promis durant 4000 ans, est enfin venu souffrir et mourir pour nous sur la terre, dans les temps et dans toutes les circonstances qui ont été prédites. En attendant par sa grâce la mort en paix, dans l'espérance de lui être éternellement unis, vivons cependant avec joie, soit dans les biens qu'il lui plaît de nous donner, soit dans les maux qu'il nous envoie pour notre bien et qu'il nous a appris à souffrir par son exemple.